Good Morning Market, le club de la bourse.
8h38 sur BFM Business, le club de la bourse. Ce matin, c'est avec Robin Rivaton. Bonjour, bonjour, président de Stonal et essayiste. À côté de vous, Alain Pitou, senior advisor chez AI for Alpha. C'est ça le nom correct. On y va, on commence avec l'inflation. Finalement, il n'y en a pas. 1,8% en juin. Alain Pitou, on s'est fait peur pour rien?
Exactement. Ça a été en fait, j'ai l'impression que c'est un peu le thème du premier semestre, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait plein de mauvaises nouvelles. On peut les lister, mais c'était énorme, qu'en fait une liste considérable qui aurait dû affecter les marchés, l'inflation dans le tas, et puis finalement les marchés sont passés au travers de tout ça. Alors avec bien sûr quelques
hauts et bas,
mais oui, bien sûr. Mais finalement, si on regarde le semestre et le trimestre en particulier, c'est un semestre extraordinaire.
Et +20, +21
pour le Nasdaq. Voilà.
Oui.
Et donc puis finalement des marchés qui se tiennent plutôt pas mal. Hein. Si on refait ça le semestre prochain, tout le monde sera content. Mais en tout cas, pour revenir à l'inflation, c'est quand même drivé par le pétrole, qui a quand même un effet d'entraînement sur tout le reste. Et le pétrole, de manière assez surprenante, revient pratiquement au niveau d'avant-guerre, alors qu'en fait, tout le monde va reconstituer ses stocks, donc ça devrait faire un effet de soutien considérable pour le pétrole. En particulier, moi j'ai en tête, tout le monde va refaire ses stocks, mais l'Inde, c'est un nouvel acteur qui va refaire un stock stratégique, un peu comme les autres. Donc on va avoir un soutien sur le pétrole. Donc c'est paradoxal de voir que finalement on a effacé ça.
Mais finalement, la Chine a consommé moins de pétrole. Donc ça a peut-être quand même joué beaucoup. C'est la Chine qui a fait le régulateur sur le marché en fait.
Ah bah c'est la Chine. Oh ben. 6 millions de barils jour en moins de la Chine.
Ça a fait du bien.
Avec, ça s'explique en 3/3, 2 millions qui sont grosso modo le passage du pétrole au charbon et à l'électricité, 2 millions qui sont l'arrêt du stockage chinois et 2 millions qui ont été puisés dans les réserves, des réserves que tout le monde voyait à un niveau et en fait qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on anticipait. Et donc ça a effectivement expliqué pourquoi le baril n'a jamais grosso modo à tutoyer les 110, peut-être 115, mais on est vraiment resté à des niveaux assez bas. Je rappelle juste qu'en 2012, on avait un baril à $115 en prix courant. Donc par rapport à aujourd'hui, ce serait un équivalent de $130, $135. Donc on a vécu on a fermé le détroit d'Ormuz et on a connu un baril relativement peu cher.
Mais ils vont continuer à faire ça ou c'est juste pour faire tampon?
Alors, deux
là
choses là-dessus, c'est que sur les 6 millions, les 2 millions qui sont déplacés du pétrole vers l'électrique et le charbon, grosso modo, il y a 1 million le charbon, c'est les Chinois peuvent redémarrer ce qu'ils appellent le synthétique, la chimie à partir du charbon. C'est-à-dire qu'en fait, le précurseur d'un certain nombre de produits chimiques, c'est le pétrole, mais ça peut être aussi le charbon, parce qu'à la fin, c'est du carbone, donc c'est la même chaîne. Ça marche quand le pétrole est au-dessus de $100. Quand c'est en dessous de $100, grosso modo, vous allez plutôt prendre du pétrole que prendre du charbon. C'est pas
donc il pourrait revenir sur le marché, là.
Donc là, ça va revenir. L'électrification, donc 1 million de barils, je pense que ça, c'est un mouvement qui est lancé et qui va perdurer. Le remontée des stocks, ça va se refaire. Et la reconstitution des stocks. Donc il y a 5 millions sur 6 qui vont quand même revenir dans la demande mondiale. Quoi.
Alors attention, il y a aussi un événement. Alors, il y a l'électrification, ça je pense que c'est un phénomène structurel. Tout le monde va essayer d'électrifier le plus possible d'usage. Donc ça c'est...
On va mettre ça. On a eu des sacrés chiffres ce matin sur l'électrification en France.
C'est énorme. Oui, c'est le mondial. Donc tout le monde fait ça. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est de se dire qu'est-ce que le marché anticipe avec un pétrole aussi bas. Et c'est quand même à se demander si le poids des dettes mondiales, des dettes publiques mondiales, finit pas par peser sur la croissance avec des anticipations sur le pétrole qui serait quand même de ce fait-là, qui traduirait que le monde va pas forcément croître aussi vite qu'on...
Donc une baisse de la demande.
Oui, tout à fait.
Robin.
Et c'est aussi un petit peu pour reboucler avec le sujet d'inflation du départ. Quand vous êtes une zone avec aussi peu de croissance que la zone euro, il n'y a pas de logique que vous ayez très forte inflation. On est une zone sans croissance et les moteurs de la croissance aujourd'hui sont éteints. C'est pour ça que sur ce plateau, je m'étais opposé à une remontée des taux d'intérêt directeurs trop brutale, parce que quel est l'intérêt dans une zone qui n'a pas de croissance d'avoir une politique monétaire extrêmement restrictive pour une inflation qui est supposée et dont les chiffres en fait nous montrent qu'elle est beaucoup moins forte qu'attendue. Et effectivement, je pense que on est sur un scénario aujourd'hui de croissance mondiale qui va être quand même plus moins vert que ce qu'on attendait, moins rose.
Étienne, sur la question de la hausse des taux d'intérêt, Christine Lagarde s'est justifiée à Cintra.
Oui.
Elle a dit clairement que c'était pas une hausse d'anticipation, qu'elle avait raison d'avoir fait cette hausse.
Et qu'il y avait des raisons. Bon, après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Quand elle a remonté les taux, c'était juste avant l'accord du cessez-le-feu. Et même sur ce plateau, je pense que pas grand monde monde voyait le pétrole aussi vite à 70 $.
Non, par contre, tout le monde a dit que c'est une mauvaise idée. À de rares exceptions près.
C'est-à-dire que là, le pétrole à 70 $ au mois de juin, même si le scénario central de la plupart des économistes depuis le début de ce conflit, c'est de dire tout va se calmer à partir du début de l'été, 70 $, c'était dans très peu de prévisions. Donc forcément, ça explique ces données d'inflation, au point même que les économistes qui ont tablé des scénarios ont dépassé les objectifs d'inflation. Eux, ils pensaient que l'inflation, notamment en France, serait au-delà des 2%, et finalement, ce n'était pas le cas. Donc tout le monde a été surpris, il faut le dire.
Oui, alors ça aussi, c'est un point que je trouve important. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les banques centrales? Alors, il faut essayer de se mouiller un petit peu, c'est un peu l'exercice.
On attend Kevin Warsh qui doit parler cet après-midi.
Voilà, donc, alors je vais me mouiller pour cet après-midi. Donc, en fait, on va se retrouver, et ça va être un peu dangereux pour les marchés, c'est-à-dire avec des banques centrales qui sont désynchronisées. On a quand même des tensions inflationnistes encore un peu aux États-Unis, donc peut-être ou une réduction du bilan de la Banque centrale américaine qui ferait quand même peser un peu sur l'activité, ouais, quand même, ou des hausses de taux, peut-être. La Banque centrale européenne qui va, je pense, maintenant rester dans sa niche un peu, je pense, quelques temps. Et puis on a en face de ça la Banque centrale japonaise qui est dans un moment assez charnière avec un yen qui est extrêmement bas. C'est qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ils vont essayer de jouer au malin, c'est-à-dire pas trop bouger leurs taux. Si les autres montent les taux, ça peut faire un effet de balance qui peut leur suffire pour maintenir leur devise, ce que je crois pas vraiment. Et donc, ils vont être probablement obligés de monter leurs taux et d'avoir une politique un peu restrictive. Peut-être pas tout de suite, mais enfin, en tout cas, ils peuvent pas laisser filer le yen éternellement comme ça. C'est-à-dire que là, on est quand même sur des
records,
niveaux de 40 ans, ouais, quand même. Donc, cette désynchronisation des banques centrales est un problème pour les marchés.
Robin?
Oui, et avec aussi un sujet qui est la Banque Centrale Chinoise. Vous avez des pressions très très fortes actuellement, notamment européennes, pour demander une réévaluation du yuan. Et c'est loin d'être facile, même si les Chinois le voulaient, c'est loin d'être facile, puisque vu le rythme de création monétaire, la façon dont ils impriment de la monnaie en Chine, c'est la croissance de la masse monétaire, la M2, qui est celle qu'on regarde un peu en Chine, elle est quasiment une fois et demie plus rapide qu'en Europe. Donc ça croît à une vitesse dingue. Et donc normalement, le yuan, si vous créez beaucoup de monnaie, votre monnaie, elle se déprécie. Et donc la Chine va avoir quand même des difficultés à, même si elle voulait renforcer le yuan, elle va avoir du mal à le faire prochainement.
Et il y a des effets pervers à ces hausses de taux. Les informations de la nuit de Reuters évoquent que la BCE envisage de revoir notamment les dépôts. Parce qu'aujourd'hui, quand une banque dépose ses dépôts à la Banque Centrale Européenne, donc maintenant c'est plus 2, mais c'est 2,25, ça coûte de l'argent, environ 50 milliards d'intérêts, sachant qu'il y a plus de 2 100 milliards de liquidités sur les comptes de la BCE. Et donc, en fait, face à cette ardoise, dans le sens où ça coûte de l'argent, tous ces dépôts auprès des banques centrales, et bien visiblement, d'après Reuters, l'objectif de la BCE, ce serait que les banques mettent en place moins de dépôts, en tout cas moins de dépôts rémunérés. En tout cas, qu'elles gardent leurs dépôts et qu'elles arrêtent de le déposer auprès de la BCE.
Donc on veut monter les taux, mais pas le taux de dépôt, juste le taux de prêt. Okay.
Ça nous amène aux questions des IPO. On a beaucoup parlé des gros IPO, évidemment SpaceX, et puis les prévisions sur OpenAI. Il y a des gros IPO prévus aussi côté chinois, Étienne.
Oui, avec notamment des volumes qui explosent du côté de Hong Kong, mais également du côté de Shenzhen. Vous avez vu notamment l'indice Chinext. C'est un indice où vous avez beaucoup de valeurs technologiques, beaucoup de petites sociétés, c'est-à-dire qu'en fait, les startups en Chine, elles vont lever des capitaux directement en bourse, pas forcément du côté des fonds de private equity, comme ça peut se faire en Europe, mais aussi aux États-Unis. D'où la performance d'ailleurs de cet indice, qui gagne quasiment 40% depuis le début de l'année, il doit faire x2 en l'espace d'un an. Et puis alors là, vous avez désormais une nouvelle société qui va rentrer en bourse à Hong Kong, ça s'appelle Luxshare. Ils fabriquent notamment les AirPods pour Apple, ils assemblent des iPhones également du côté de la Chine. Alors à chaque fois, c'est vrai que c'est des montants qui peuvent paraître anémiques, ils vont lever 3 milliards de dollars par rapport au montant que l'on voit du côté des États-Unis avec SpaceX, OpenAI, etc.
Vous voulez des trillions, vous, maintenant, ou des trilliards?
Non, mais c'est-à-dire qu'on est sur un marché qui affiche une forte croissance, mais à la fin, avec des levées de capitaux qui peuvent paraître assez faibles. Par exemple, à Hong Kong, l'année dernière, c'était à peine 40 milliards de dollars. Ça peut paraître tout petit, mais c'est des centaines de boîtes qui, ensemble, ont levé 40 milliards de dollars.
Robin?
Ouais, c'est un marché très intéressant parce que en Chine, il y a une répression de l'épargne. Donc, en fait, on pousse les épargnants à mettre leur argent dans les banques et les banques les rémunèrent en dessous de l'inflation, donc avec un taux d'intérêt réel négatif, ce qui permet d'allouer cette épargne à l'industrie et aux secteurs économiques, ce qui permet d'avoir un coût du financement très intéressant pour l'économie. Donc, la bourse, l'immobilier a longtemps été une façon de s'extraire de cette rentabilité très faible bancaire. C'est fini désormais, ça, c'est assez clair. Et donc, la bourse, c'est très spéculatif, c'est-à-dire que les acheteurs chinois viennent et vont, et donc pour le régulateur d'ailleurs c'est très difficile à gérer parce que c'est un comportement ultra spéculatif avec des gens qui ne gardent pas, qui essayent de venir quand ils sentent le vent tourner. Donc là c'est vrai qu'il y a maintenant depuis 12-15 mois un discours assez positif sur la tech chinoise avec un certain mal, notamment les sociétés d'IA et même d'autres produits de technologie. Donc ça fait cet appel d'air, beaucoup de gens viennent. Il faut voir que il y a deux sujets, je dirais quand même par rapport à ça, c'est que aujourd'hui la rentabilité de ces entreprises est faible. L'entreprise chinoise a par nature une rentabilité faible parce qu'elle vend des produits, elle gagne des parts de marché, et donc c'est des sociétés qui ont des rentabilités nettes vraiment très 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 écrasées. Il y a des boîtes, une boîte d'IA qui est très connue qui s'appelle ZAI, qui était rentrée en bourse en début d'année, qui a fait x15 depuis le début d'année quand même. Il y a un modèle qui s'appelle GLM qui est un modèle vraiment incroyable, qui est vendu un dixième du prix d'Anthropique et qui est un très bon modèle. Bah, ils font un chiffre d'affaires de 40 millions de dollars quoi. C'est très 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 petit, et donc c'est un peu la limite de cet investissement dans les sociétés chinoises, c'est que bah, à la fin elles sont rattrapées par leur faible rentabilité.
Alain.
Alors bon, moi c'est vraiment pour ça que j'aime pas le marché chinois. C'est en fait c'est un marché administré, sans parler de politique, c'est un marché administré donc qui est problématique pour l'investisseur externe. Alors on peut faire de l'indice et tout, mais si on regarde depuis le début de l'année, ça fait partie des trades qui étaient cités par tout le monde en début d'année. En fait, il fallait mieux faire un trade tout simple, hein, c'était ne pas avoir de Chine et avoir d'autres pays émergents. Ça c'était quand même un trade assez simple qui a parfaitement fonctionné, et aujourd'hui je ne le vois pas faire autrement. Donc moi c'est vraiment un marché que j'évite consciencieusement.
Trop compliqué quoi.
Non, c'est pas compliqué, c'est pas rentable.
La question c'est ça, à la fin c'est pas rentable.
C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont pas drivées par la rentabilité pour une raison qui est
derrière. C'est un problème quand même.
Oui et non.
Ça s'appelle des entreprises publiques.
Elles ne sont pas publiques en ce sens-là, mais elles visent l'objectif c'est de gagner des parts de marché, et donc peut-être qu'un jour elles viseront à augmenter la rentabilité,
mais c'est pas tenable, Robin.
Pardon ?
C'est pas tenable.
Bah si, parce qu'elles font de la rentabilité. Elles font de la rentabilité avec un coût du capital extrêmement, extrêmement, extrêmement faible. Aujourd'hui, elles gagnent des parts de marché sur les marchés mondiaux, quand même. C'est ça un gros sujet. Mais effectivement, d'un point de vue actionnarial, et ça, c'est philosophique. Hein, en Chine, pour le coup, ça, c'est le marxisme. On dit souvent la Chine, c'est marxiste. Non, la Chine, c'est ultra concurrentiel et ultra capitaliste sur la concurrence entre les entreprises. Et c'est ultra marxiste sur un segment qui est de dire on ne doit pas s'enrichir par la détention des moyens de production. Et donc, à la fin, ça fait des entreprises qui ne gagnent pas beaucoup d'argent.
Mais si vous êtes subventionné, de toute façon, le but, c'est juste
de... C'est pas de la subvention. Hein. C'est pas de la subvention.
Bah, vous forcez l'épargne à aller vers les...
C'est du coût du capital plus faible. C'est pas de la subvention, j'insiste sur...
Mais du capital qui arrive parce qu'il est forcé d'arriver là, parce que vous êtes drivé quand même.
Si vous êtes un étranger, que vous allez en Chine, si vous êtes BASF, vous voulez ouvrir une usine en Chine, vous avez le même coût du capital que si vous êtes l'acteur chinois sur place. Donc, c'est pas une distorsion de concurrence.
Mais vous aurez la même rentabilité que localement.
Ah bah oui, vous avez pas de rentabilité. Donc,
le meilleur exemple, c'est BYD. Regardez l'action BYD, elle perd 30% depuis le début de l'année. On pourrait se dire, c'est super, il faut acheter des actions BYD, il y en a partout, ils gagnent des parts de marché, etc. En fait, ils font beaucoup de volume et la rentabilité, elle baisse parce qu'en fait, ils sont dans une guerre des prix. Alors, peut-être que sur un horizon 10, 15, 20 ans, ça va être gagnant, dans le sens où peut-être que BYD, un jour, peut-être...
Quand il n'y aura plus de constructeurs européens,
une fois qu'ils auront tué tout le monde, ils vont progresser leur marge. Mais en tout cas, à court terme, c'est très compliqué.
Alors après, il y a eu un thème qui a fonctionné depuis 18 mois, c'est tout ce qui est autour de l'IA et de la chaîne de valeur de l'IA. Et on est passé directement dans une problématique de souveraineté. Donc, les Chinois, on ne peut pas imaginer des Européens qui, pour leur souveraineté, achèteraient des modèles chinois. C'est juste inimaginable. Donc... eux, ils ont réussi à passer sur le côté industriel. Donc, cette partie-là du business, de la chaîne de valeur de l'IA, tout ce qui est électrification, etc., eux, ils vont être là. Ils vont faire très mal, d'ailleurs, en termes de coûts par rapport aux autres grands, parce qu'eux savent faire de l'industriel. Et on est dans cette logique-là. C'est-à-dire que
en fait, ils vont faire des voitures et des avions.
Et des robots.
Mais pas des modèles.
Et pour les modèles, je pense que ça va être assez compliqué d'utiliser des modèles chinois dans l'industrie ou dans le.
Robin, il utilise des modèles chinois. Je le vois. Et ça marche bien, c'est ça?
Aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts des modèles américains, des modèles frontières américains, beaucoup de stratégies de réduction des coûts qui ont lieu actuellement. Hein. Depuis deux mois, le grand sujet dans les boîtes américaines, c'est de dire la facture que je commence à verser
est, trop forte,
est beaucoup trop importante. Oui, donc, il y a plein de stratégies pour dire, en fait, je confie quelques tâches les plus sophistiquées aux modèles frontières. Et en fait, il y a 98% des tâches qui peuvent être faites par un modèle open source.
Oui, mais si c'est interdit, si Trump il dit vous prenez pas les modèles chinois, point.
Peut-être, mais les Européens, par exemple les Européens, les restes du monde, la demande, elle n'est pas que drivée par les États-Unis. Et vous servez aussi l'Europe.
On a les mêmes problèmes. Je veux dire, un des vecteurs de développement, c'est la défense. Donc, on ne peut pas imaginer qu'on utilise les modèles chinois pour de la défense.
Enfin, bon, en tout cas, je pense que dans aujourd'hui, ce qu'on voit, après, c'est les statistiques sont pas pures et parfaites parce que tout n'est pas servi sur Open Router. Mais quand on regarde les statistiques d'Open Router, on voit vraiment la montée en puissance des modèles.
C'est quoi Open Router?
C'est un site qui va agréger toute la consommation de tokens des différents modèles à l'échelle du monde.
Ah, c'est bien.
Et on voit vraiment monter la consommation chinoise de manière massive. Mais le point pour revenir sur la Chine, c'est il y a une concurrence domestique pour revenir sur BYD. BYD est rentable hors de Chine. Mais en Chine, il y a une concurrence domestique qui est tellement violente.
Ils sont combien de constructeurs chinois? Ils sont...
Alors, on disait souvent, il y a une centaine de constructeurs chinois. En réalité, le top 10 fait 90% du marché aujourd'hui. Donc,
mais déjà 10, ouais.
Ouais, mais 10, ils doivent être 5. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils vont finir à 5. On le sait, il y a une consolidation qui est en cours. Mais cette concurrence avec des prix qui sont vraiment vendus, même quasiment en dessous du prix de revient en Chine, fait que les marges, elles sont écrasées. Et BYD, en plus, se faisait financer par ses fournisseurs. Et Pékin leur a dit, faut arrêter un petit peu de mettre trop de prix sur la chaîne. Donc depuis, ils ont un énorme problème de cash et ils ont dû lever beaucoup de dettes.
Etienne, ouverture des marchés dans 7 minutes, qu'est-ce qu'on regarde?
C'est prudent, hein, bien sûr, en préouverture avant Covid Watch, on en parlait il y a un instant. Il faudra suivre Nike tout à l'heure à Wall Street. Le groupe a publié ses résultats hier. Le directeur financier n'est pas allé par quatre chemins. Il a dit la consommation en ce moment, c'est compliqué partout. Alors en Chine, bien sûr, avec des consommateurs chinois en plus qui sont en train de bouder Nike, ils achètent très clairement des marques locales. Les ventes en Europe, elles sont stables, quasi flat. Aux États-Unis, léger mieux. Ils espèrent qu'ils vont faire un bel été avec la Coupe du Monde. Mais en attendant, hier soir, ça n'a pas réussi à convaincre les investisseurs. Le titre était en baisse après la publication de ces chiffres.